Alors, en 2013-2014, on a traversé la première épître aux Corinthiens et j'aimerais commencer avec vous la deuxième épître aux Corinthiens. Et je crois que parmi toutes les épîtres de Paul, c'est une que je préfère parce qu'on y voit le cœur de Paul. C'est vraiment une épître qui est très personnelle, où il s'ouvre, il ouvre son cœur. Il se dévoile, il parle de lui-même et c'est très touchant de voir sa souffrance aussi dans le ministère. Alors l'épître, cette deuxième épître aux Corinthiens a été écrite à peu près moins d'un an après la première lettre. On se souvient que dans la première lettre, vous voyez ce qu'il a écrit, Paul a dû faire face à plein de difficultés qu'il a essayé de corriger. Et puis là, dans cette deuxième lettre, eh bien, il est encore accablé et plus accablé encore, peut-être, parce qu'il y a un vent de méfiance qui a soufflé sur cette église de Corinthe et on a commencé à remettre en question son apostolat. Alors, il y a des personnes qui sont venues, qui ont dit, mais vous êtes sûr, c'est un apôtre, etc. Et donc, il est blessé, il ne comprend pas ce qui se passe. Peut-être aussi, c'est en réaction à ce qu'il avait dit dans sa première épître, hein, parce que. Voilà, il a jugé le péché, il a dit pas ça, pas si, non, il a redressé, et puis après, ben, il y a eu un vent qui s'est levé contre lui. Et c'est sûr que quand on est direct, ben, ça ne plaît pas forcément. Et les liens se sont distendus de ce fait avec l'ensemble des Corinthiens. Et donc, voilà, mais mon cœur est ouvert pour vous et. Pourquoi vous vous êtes resserré pour moi, quoi? Il ne comprend pas cette situation. Mais en même temps, Paul, parlant de ses épreuves et souffrances, c'est aussi une épître qui apporte une grande consolation. D'ailleurs, le mot consolation se retrouve plus qu'ailleurs dans cette épître ici. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, puisque dès le premier chapitre, on voit que le thème est lancé. Il va commencer par nous parler de la consolation. Alors, on va lire ensemble 2 Corinthiens, chapitre 1, et puis versets 1 à 11. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore pour ces expériences que tu as permis dans la vie de tes enfants, de l'apôtre Paul et d'autres. Seigneur, merci pour ta parole qui est précieuse, qui est si riche, si nourrissante, si bienfaisante. Père, que tu veuilles encore l'ouvrir pour nous, la bénir, Seigneur, et qu'elle nous libère, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous stimule, qu'elle nous fortifie. S'il te plaît, bénis-nous encore, nous te le demandons ensemble, par la grâce, en Jésus-Christ. Amen. Alors Paul commence cette lettre comme il a un peu l'habitude de commencer ses autres lettres. Si vous prenez toutes les épîtres, vous comparez le premier verset, c'est souvent assez semblable. Il rappelle à chaque fois qu'il ne s'est pas appelé lui-même, mais que c'est Dieu qui l'a appelé, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'envoie, c'est par la volonté de Dieu. Hein. Donc c'est Dieu qui l'a arrêté sur le chemin de Damas et qui en a fait l'homme qu'il était. Il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée ». Et à l'église qui est à Corinthe. Donc, c'est même pas que Paul emploie une formule pour essayer de convaincre ceux qui doutaient de lui. Non, il a l'habitude de commencer ses lettres comme cela, parce que c'est une réalité. Il n'y pouvait rien. Dieu l'avait pris, l'avait choisi, l'avait envoyé. Alors, eh bien, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire, et il ne pouvait pas faire autrement. À noter aussi que, juste entre parenthèses, c'est pas lui qui a écrit les derniers versets du Nouveau Testament où il est dit qu'il ne faut pas enlever, il ne faut pas retrancher, il ne faut pas ajouter quelque chose, hein, c'est l'apôtre Jean. Et donc ça sous-entend tout le Nouveau Testament. Et donc voilà, toutes les paroles de Paul sont inspirées et c'est Dieu qui les a inspirées pour nous. Puis sa salutation est habituelle, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors Joseph... il nous encourage, et voilà, il met sa paix sur nous, et je mets aussi la même manière que la paix et la grâce soient sur vous. Il n'y a rien de plus beau. Hein. Qu'est-ce qu'on peut désirer d'autre que la paix et la grâce, hein. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la grâce de Dieu qui est le soutien, qui est la force de Dieu. Verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes ». Et le Dieu de toute consolation. Et on ne trouve nulle part ailleurs un verset, une parole comme celle-là. Hein, c'est parole claire qui nous présente Dieu. Qui est-il? Alors d'abord, il dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, Dieu est un Père. Il est le Père de son Fils bien-aimé, le Père de Jésus-Christ. Mais plus encore, il a des milliards d'enfants de par le monde qu'il a adoptés, et ce sont nous, ses enfants. Alors, eh bien, il est aussi notre père. Hein. Tout à l'heure, Raymond disait, voilà, on peut même dire papa, parce qu'il est vraiment notre père. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y avait Marie qui était là, et il lui a dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. » Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est touchant. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Oh, le lien là qui est fait avec nous, quoi. Moi, Dieu, mon Père. Dieu est véritablement notre Père. Il est notre Dieu. Et il est pour tous ceux qui viennent se réfugier sous ses ailes. Il faut venir sous ses ailes, et alors à ce moment-là, eh bien, on est vraiment ses enfants. Ensuite, deuxièmement, la parole le nomme le Père des miséricordes. Père des miséricordes, dans d'autres versions, c'est le Père riche en bonté, ou bien le Père plein de compassion. Et c'est ainsi que Dieu est. Dieu est vraiment comme ça. Il est miséricordieux pour celui qui se repent. Et j'aimerais prendre un passage des psaumes qui nous parle vraiment de cela. Regardez psaume 103, 10 à 14. Psaume 103, 10 à 14. Il dit, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Quand on voit ça, on voit vraiment la miséricorde de Dieu. Et se manifeste dans le fait qu'il ne nous punit pas selon ce que nous méritons. Dieu aime ceux qui le craignent. Quand on vient se mettre au pied de sa croix, eh bien, il éloigne de nous nos transgressions. Il les éloigne. Comme un père a compassion de ses enfants, il a compassion de nous, il nous garde. Pourquoi ? Parce qu'il sait que nous sommes poussière, que nous sommes fragiles, que nous sommes sensibles, que nous sommes pécheurs, que nous sommes coupables, mais repentants. Et puis Paul termine sa description du Tout-Puissant en disant que Dieu est le Dieu de toute consolation. Dieu est celui qui console comme personne n'est capable de consoler. Et c'est vraiment quelque chose que Paul va appuyer dans toute cette lettre. Et on voit que Paul a vraiment une profonde et réelle connaissance de la consolation de Dieu parce qu'il l'a expérimenté lui-même. La Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur. Littéralement, c'est le paraclète. Paraclète. Un paraclète, c'est d'abord quelqu'un qui plaide la cause d'un autre. De là, la traduction parfois de avocat. Quand vous prenez 1 Jean chapitre 2, là, il est écrit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est paraclète. » Donc, c'est quelqu'un qui prend notre défense. Il va prendre notre défense pour venir s'interposer et nous protéger. Il intercède, dit la Bible. Ensuite, le deuxième sens du paraclète, c'est celui qui porte secours, qui aide. Et dans ce deuxième sens, le Saint-Esprit, eh bien, il est le paraclète. Il est celui qui vient nous porter secours et nous aider. Et c'est pour cela qu'il est traduit par consolateur. Donc, dans le Nouveau Testament, hein, Jésus emploie ce mot pour le Saint-Esprit, pour dire, voilà, il est celui qui vient se mettre à côté de nous, nous soutenir, nous consoler dans notre affliction. Donc voilà ici les choses qu'on apprend dans ces trois termes. Et puis, pour la suite, Paul va nous apprendre des choses sur la consolation. Donc je vais relire ce verset 4. « Le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Et donc, la première chose qu'on voit, c'est que Dieu est celui qui nous console de toutes nos afflictions. Et Dieu ne délaisse, il n'abandonne personne, aucun de ses enfants. Quand on est dans une difficulté, quand on est dans une souffrance, eh bien, Dieu est aussi là. Il est avec nous. C'est la première chose qu'on peut retenir. Ce qui signifie que la consolation accompagne toujours l'épreuve. Elle est toujours en même temps. Lorsque Joseph... Il est vendu, il se retrouve dans la maison de Potiphar, on voit que Dieu est là, Dieu est avec lui, Dieu le bénit, Dieu le console dans son épreuve. Lorsque, juste après, il se fait avoir par la femme de Potiphar, hein, il se retrouve en prison, et là, de nouveau, Dieu est avec lui, Dieu le console, Dieu le soutient dans ce temps en prison. Lorsque David se retrouve poursuivi par Saül, qu'est-ce qui se passe ? Dieu envoie Jonathan. Et Jonathan est un consolateur pour lui. Et tant que David va être dans l'épreuve, le consolateur, là, en la personne de Jonathan, sera toujours là. Et dès que Saül est ôté, Jonathan est aussi ôté. Et on voit vraiment Dieu qui consolait au travers de Jonathan. Et Paul, il fait le même constat pour lui-même au verset 7, hein. Il dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Et Paul et ses collègues, tous les autres serviteurs qui étaient avec lui, ont goûté pleinement à la consolation de Dieu dans toutes leurs épreuves. Ils étaient des proclamateurs de l'évangile de Jésus-Christ. Donc à cause de cela, les souffrances étaient leur lot qui était quotidien. Ils souffraient sans cesse. C'était des persécutions, c'était des tribulations, c'était des détresses. Paul parle de coups, il parle de veille, de jeûne. Ils sont sur les chemins. Paul dit même en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Des faux frères aussi. Et pourquoi vivaient-ils tout cela ? Parce que, eh bien, ils suivaient Jésus-Christ, ils aimaient Jésus-Christ. Et donc, c'était les souffrances de Christ auxquelles il avait part, hein, c'est ce qu'il dit. parce que ces souffrances résultaient d'une vie vécue pour Jésus-Christ. Et nous aussi, on vit et on peut vivre des souffrances pour Christ. Alors bien sûr, entre parenthèses, Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes. Et les souffrances que nous vivons n'ajoutent rien et n'ajouteront rien à notre salut, que ce soit bien clair. La souffrance que nous pouvons vivre sur terre n'est pas expiatrice. Elle n'expie rien. Elle ne nous sauve pas et elle n'ajoute rien. Mais par contre, Paul parle dans Philippiens, il dit, de la communion des souffrances de Christ qu'il vivait. Il vivait dans la communion aux souffrances de Christ. Parce qu'il y a une communion, il y a une association avec Christ quand nous souffrons pour lui, pour son nom, pour sa gloire. Comme il a souffert, ça a été mentionné par Joseph, comme il a été rejeté, comme il a été méprisé, comme il a été haï, comme il a été vraiment repoussé, eh bien, de la même manière, nous pouvons vivre la même chose. Nous pouvons vivre les mêmes souffrances, ça peut abonder en nous. Mais on peut aller plus loin aussi et dire que si nous sommes fidèles au Seigneur et nous vivons notre vie pour Jésus-Christ, dans la vie qu'il a tracée pour nous et qui est jalonnée d'épreuves et de souffrances, alors eh bien, nous connaissons nous aussi la communion à ces souffrances. Parce que ces souffrances, elles nous contraignent à mourir à nous-mêmes, à nous unir à lui. C'est ce que Paul dit, hein? « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Et donc, accepter les choses qui sont douloureuses de cette vie nous conduit à vivre pour lui, à mourir pour nous-mêmes. Ça nous mène vers cela. Et c'est comme ça qu'on est transformé un petit peu plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce qu'on vit des souffrances. « Seigneur, aide-moi, je meurs à moi-même, je vis pour toi, aide-moi à surmonter. Il n'y a que comme ça que j'y arriverai. » Et alors, eh bien, on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ vit de plus en plus en nous. Qui sont ceux qui ressemblent le plus à Jésus? C'est ceux qui ont souffert. C'est ceux qui ont traversé des souffrances, qui les ont acceptées, qui les ont vécues avec Christ. Ils en ressortent transformés. On parlait à l'étude biblique de... c'était qui ce serviteur de Dieu fidèle? On parlait à l'étude biblique là. Rav Chalice, voilà, son nom m'échappait. Rav Chalice. Donc voilà, Joseph nous parlait un petit peu de sa douceur, etc. Mais il a eu son lot de souffrances. Mais ça l'avait lié à Jésus-Christ, uni à Jésus-Christ. Mais Dieu fait aussi une promesse. Je reprends notre verset 5 dans 2 Corinthiens. Il dit « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Et donc, si Dieu permet la souffrance, il y a toujours la consolation qui vient avec. La consolation abonde par Christ. Et il n'y a pas d'enfant de Dieu éprouvé et seul abandonné. Ça n'existe pas. Dieu va couvrir, Dieu va entourer, Dieu va porter, il va soutenir, il va remplir son enfant qui est dans l'épreuve. Dieu est avec nous. C'est encore ce qu'il dit au verset 7. Il dit « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Ça, c'est une certitude éprouvée par l'apôtre. Dieu n'enfreint jamais cette règle. Si nous sommes éprouvés avec Christ, alors, eh bien, on a part aussi à la consolation. Paul dit, nous le savons. Je le sais parce que je l'ai vécu et je le sais pour vous. C'est ce qu'il nous dit. Dieu sera fidèle, il sera avec vous pour vous consoler, vous fortifier, vous entourer, vous couvrir de ses bras de consolation. Donc, première chose, si on souffre, la consolation sera là, toujours. Deuxième chose, si nous sommes consolés, alors il fait de nous des consolateurs. Regardez verset 4. « Le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Et nos épreuves nous arment, nous équipent pour devenir nous-mêmes des consolateurs. Vous allez confirmer ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de personne plus compréhensive que celle qui a vécu dans le passé ce que vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas de personne plus compréhensive. Si vous vivez quelque chose de dur, eh bien celle qui vous comprend vraiment, c'est celle qui est passée il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou celle qui y est. Et en cela, nous sommes tous précieux les uns les autres, tous précieux. C'est incroyable. On ne peut pas tous vivre toutes les expériences d'une vie humaine. C'est pas possible. C'est impossible. Certains vont vivre la maladie, d'autres vont vivre un accident, d'autres vont vivre un drame, d'autres vont vivre la disette, d'autres vont vivre la persécution, le rejet, un manque d'amour, une infirmité, une injustice, le deuil, le veuvage. Mais personne ne vit toutes ces choses à la fois dans une vie. Non, c'est pas possible. Ce qui fait que l'expérience de chacun en fait un consolateur unique. Unique. Quelqu'un qui est complètement compréhensif et capable de compatir pour une personne qui vit des choses qui sont similaires, qui sont pareilles. La seule condition, ou les seules conditions, c'est de surmonter sa propre souffrance. C'est important, ça. Surmonter sa propre souffrance par la consolation qu'on reçoit de Christ, ou qu'on a soi-même reçu des frères et sœurs. Parce qu'on meurt avec lui. Alors on surmonte. Et puis donc être offert sur l'autel. Être offert en sacrifice vivant. Mourir à nous-mêmes pour que Christ soit vu, pour que Christ grandisse, pour que Christ paraisse. Et puis après, eh bien, on devient capable, par expérience, de consoler nos frères et sœurs qui vivent le même type d'expérience. Et en cela, on devient très précieux. On est tous précieux. Précieux aux yeux de Dieu, mais précieux en tant qu'Église, parce qu'on s'apporte quelque chose les uns les autres. On a besoin de tous, on est interdépendants. Certains vont avoir une parole qu'un autre ne pourra pas avoir, parce que ce n'est pas son expérience. Il n'a pas vécu, donc il voudrait bien, mais il ne peut même pas. Alors Dieu fait grâce, Dieu remplit nos bouches et nos cœurs, mais il nous donne aussi des personnes qui sont les consolateurs, nos consolateurs. Et Dieu nous console au travers d'eux. C'est Dieu qui vient nous donner cette consolation. Si nous avons été consolés, c'est pour que nous consolions à notre tour. Et c'est vrai que on n'a pas forcément en double chacun dans une église aussi. Hein. Certains ont vécu quelque chose, mais voilà. Hein. Un consolateur identique se trouve ailleurs. Mais on ne va pas trouver forcément le consolateur parfait, mais on va trouver quelqu'un qui a vécu quelque chose qui se rapproche et qui est capable, par la grâce de Dieu, d'apporter cette sensibilité, cette attention, cet amour, cette compassion dont nous avons besoin pour nous-mêmes surmonter l'épreuve. Par exemple, un serviteur de Dieu qui a vécu des expériences dans un ministère pastoral ou missionnaire, il est toujours en bénédiction pour un autre serviteur. Parce que on se comprend. On a vécu ou on vit des choses identiques et voilà, il y a une vraie compassion, il y a quelque chose qui passe. Celui qui a vécu une chimiothérapie, eh ben il sait. Et il va pouvoir passer quelque chose que lui seul pourra passer. Parce que c'est par expérience. Celui qui est passé par la disette, il est plus attentif à celui qui souffre de précarité. Celui qui a eu plusieurs enfants, il sait ce que ça implique d'avoir une famille nombreuse, de gérer, de gérer les âges, de gérer aussi la croissance. Hein. Quand on a eu des enfants, ben on sait, il y a des différents stades, différents problèmes qui apparaissent au fur et à mesure que les enfants changent. Celui qui a souffert ou souffre la solitude, s'il triomphe lui-même par Christ, il devient capable d'apporter aussi un soutien à celui qui en souffre. Celui qui est passé par une douleur physique, il va comprendre l'autre. Il y a peut-être un an ou deux, j'ai le nerf sciatique là, ça ne m'est jamais arrivé ça, qui est d'un seul coup bloqué. Ça y est, j'ai compris Francisco quand il me parlait de sa sciatique. Hein? Après, on compatit, mais après quand on le vit, oula, oui d'accord, ça y est, je vois ce qu'il vit. Ça fait mal. Hein? Et vous savez, pour plein d'autres choses. Hein? Et c'est beau. Nous sommes des consolateurs les uns pour les autres. C'est vraiment précieux. Mais aussi pour ceux de l'extérieur hein, qui vivent des choses. On est un témoignage pour les autres. On peut apporter la pensée de Christ, même au travers de nos épreuves. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, Paul explique ce que sera l'enlèvement, au chapitre 4, versets 13 à 18, on ne va pas le prendre, hein. Mais tout à la fin, il termine juste après, il dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire qu'un consolateur, c'est aussi quelqu'un qui a été consolé par les Écritures et qui va consoler par les Écritures. On apprend, hein, on reçoit, voilà, ça va te faire du bien, parce que ça m'a fait du bien. Et c'est Dieu qui console au travers de nous, les frères et sœurs. Donc nous sommes tous des consolateurs et nous pouvons le devenir par nos expériences de vie. Ce qui amène à une troisième vérité que Paul développe. Chacune de nos peines, de nos souffrances, de nos épreuves ne sont pas vaines. Elles ne sont pas vides de sens. Il y a du sens derrière nos vies. L'épreuve est en soi une richesse et une bénédiction pour l'âme de celui qui la vit. Verset 6, regardez, Paul dit « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Paul donne une raison à ses afflictions, il dit « C'est pour votre consolation et votre salut. » Pourquoi ? Parce que les chrétiens voyaient Paul crucifié. Crucifié à lui-même, mort à lui-même, crucifié avec Christ. Paul acceptant ses épreuves, acceptant ses souffrances, et on le verra dans l'épître, cette deuxième épître aux Corinthiens. Et Paul triomphant d'elle par la croix, par la mort à lui-même, par une vie qui est vécue en communion avec Jésus-Christ. Paul était uni à Christ et il montrait le chemin pour vaincre ses propres épreuves. Et c'est certain, quand on voit un frère ou une sœur qui est ferme, qui est fidèle, qui reste attaché au Seigneur, qui est lié, qui a foi, qui est joyeux, espérant toujours dans le Seigneur, malgré ou au travers de ses souffrances et de ses épreuves, ben, c'est quelque chose qui nous stimule aussi, qui nous fait du bien. Ça nous aide, c'est un enseignement pour nous qui souffrons de la même manière. Parce que les frères et sœurs voyaient Paul réconforté aussi, Paul consolé, Paul soutenu par le Seigneur. Alors, eh bien, ils avaient eux-mêmes plus de patience pour supporter leurs propres souffrances. C'est ce qu'il dit, hein, votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc la consolation que nous voyons, que Dieu donne aux autres, nous stimule nous-mêmes à être patients et à traverser nos souffrances. Ça donnait du courage aux frères et sœurs et ça nous donne du courage de voir les autres aussi fidèles et consolés par le Seigneur. Et si Dieu soutient, si Dieu fortifie, si Dieu porte quelqu'un qui souffre, ben ça veut dire que pour moi aussi, il peut le faire. Je peux aussi traverser. Il peut aussi me fortifier. Et les chrétiens pouvaient se dire, bon, Paul vit des choses terribles, mais il est là, joyeux, il vit. Ben moi aussi, voilà, nous aussi dans notre ville, on va subir des choses qui sont difficiles, mais on va pouvoir suivre son exemple. Le Seigneur sera, comme il était avec lui, avec nous. Mais on peut conclure avec un exemple concret d'affliction, puisque Paul nous donne un exemple concret, il parle de lui-même, versets 8 à 11, 2 Corinthiens 1, 8 à 11. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Quand vous lisez le livre des Actes, vous avez une petite fenêtre où vous voyez ce que Paul a enduré en Asie. Là, il en parle, hein. Mais quand vous lisez ce récit donné par Luc, il n'y a pas énormément de détails sur la persécution qu'ils ont subie. Il y a juste un verset ici ou là qui nous laisse entrevoir ce qu'il a subi. Mais là, dans ce passage, Paul nous parle intimement de ce qu'il a vécu. Et ce qu'il a vécu intérieurement, hein, comment c'était dans son cœur. Dans le livre des Actes, c'est des faits. Voilà, eh bien, voilà, Paul a été lapidé. Ils l'ont traîné, ils l'ont jeté dehors, ils l'ont laissé pour mort. Les disciples l'ont entouré, il s'est levé et il est rentré dans la ville. Point. C'est sommaire, hein. Mais là, on voit le cœur de Paul. On voit comment il a vécu ça. J'aimerais vous lire une autre version du verset 8. C'est pas vraiment une version, c'est une translittération de Kuhne. Où il a pris toutes les versions, il les a mis ensemble. Et donc, il dit, pour ce verset 8, « Il faut en effet que vous sachiez, frères, que nous avons dû passer par une terrible épreuve en Asie mineure. Nous avons été persécutés avec tant de violence que nous étions absolument écrasés. Nous avons été excessivement accablés. Nos forces étaient à bout. Nous en étions venus à abandonner tout espoir de nous en tirer vivants, car nous avions le sentiment de voir tomber notre arrêt de mort. » Et on n'imagine pas, c'est Paul hein, qui dit ces choses, hein, dans quelle situation, situation qui était désespérante, écrasée par la violence, par le rejet, simplement à cause du message de Jésus-Christ. Quand on voit ces chrétiens persécutés ailleurs, là, en ce moment, on se dit, c'est terrible, une telle violence pour des bienfaiteurs, des gens qui veulent du bien. Et on peut dire que c'est le diable hein, qui s'est acharné sur l'apôtre Paul. Il a voulu l'arrêter. Il s'est acharné comme jamais, parce qu'il savait aussi l'enjeu. C'est que Paul, hein, il était en train de répandre le message parmi les païens. Si nous sommes là, c'est parce que ben, ça s'est répandu. Hein. Donc il y avait tout un enjeu qui était important. Paul était comme une dynamite au milieu du paganisme. Mais l'ennemi de Dieu n'a pas pu l'arrêter. Il n'a pas pu. Dieu était avec lui. Dieu prévoyait autre chose que sa mort, même si Paul dit, mais on va mourir. Ça y est, ça s'arrête là. Cette épreuve extrême a conduit l'apôtre à un sacrifice encore plus grand, à une offrande de sa vie et de son corps encore plus grande. C'était toute sa vie, tout son être abandonné sur l'autel en disant, voilà, me voici Seigneur, je n'ai plus que toi, prends ma vie. Verset 9, il dit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Un autre verset de le dire serait, en notre fort intérieur, nous avions fait le sacrifice de nos vies. Tout cela nous est arrivé pour nous apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui peut ressusciter même des morts. C'est plein de sens. Les épreuves et les souffrances nous apprennent à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais à la placer en Dieu seul. Ça nous conduit vers Dieu seul. Et c'est une autre vérité importante à comprendre. Les afflictions tendent à nous rapprocher de Dieu. Elles nous tirent vers Dieu. Elles nous attirent vers lui parce qu'on a besoin de lui. Il n'y a pas d'autre moyen de le vivre. Et là, on goûte à sa mort, mais à sa résurrection. Hein? C'est là où on est vivant avec Dieu. Si je suis mort, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul. Parce que tout ça l'a conduit vers cette mort à lui-même et cette vie de Jésus qui vivait au travers de lui. Verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et là, on termine ici avec l'expérience de la délivrance. Il a été délivré. Paul lui-même pensait que c'était fini, mais Dieu a délivré son serviteur. Dieu délivre. Et Dieu délivre parfois de situations extrêmes où on se dit c'est fini, terminé. Dieu fait quelque chose. Et ils sont nombreux les témoignages encore vivants d'hommes et de femmes, ou bien les témoignages du passé qui nous montrent cette vérité. Hein. Dieu fait des miracles pour délivrer ses enfants. Il suffit d'entrer dans une église locale et vous allez trouver des dizaines de témoignages, et vous l'avez vécu aussi parfois, où Dieu a délivré, voilà, in extremis. Si vous entrez dans une librairie chrétienne, alors vous allez trouver des tonnes de témoignages de ceux du passé qui ont vécu cela. Et celui qui a part à l'épreuve, il a part aussi à la délivrance. C'est merveilleux. Et cette délivrance, elle suscite la foi. C'est ce que dit Paul. Paul est maintenant convaincu que Dieu me fera traverser n'importe quoi. Hein? Puisqu'il m'a délivré là, j'ai confiance aussi pour le reste. C'est ce qui va l'amener jusque devant César pour témoigner sans crainte en disant mais, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? J'étais au bord de la mort. Ils veulent me prendre ma vie ? Qu'ils me prennent ma vie ? Et il a témoigné courageusement. Quand on voit que Dieu peut nous délivrer du pire, alors il n'y a plus grand-chose qui peut nous faire chanceler. Après, on reste fidèle, quoi qu'il arrive. D'un point de vue strictement humain, charnel, on ne peut pas se réjouir des afflictions. Personne n'a envie de souffrir. Hein? Qui veut souffrir ? Personne. Non. Oh, Seigneur, s'il te plaît, épargne-moi ça. S'il te plaît, pas ça, Seigneur. Mais d'un point de vue spirituel, pardon, d'un point de vue spirituel, chrétien, on peut mieux comprendre Jacques lorsqu'il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi ? Parce que si nous sommes affligés, nous avons part à la consolation, c'est sûr. Première chose. Parce que l'épreuve fait finalement de nous des consolateurs, une bénédiction pour les autres. Parce que la consolation que nous recevons dans l'épreuve développe en nous la patience. Elle nous transforme. Parce que finalement, la délivrance est accordée à celui qui vit ces épreuves et c'est la foi qui est suscitée dans notre cœur. Et pour conclure, dans ce dernier verset 11, on l'a lu, hein, l'épreuve d'un frère engendre une plus grande piété puisqu'elle stimule les prières. Ici, c'est les Corinthiens qui vont se mettre à prier ardemment pour l'apôtre Paul. Donc ça... Voilà, ça génère une plus grande piété. Et ça engendre des louanges vers Dieu. Donc encore, eh bien, voilà, une plus grande piété. On a envie de louer Dieu parce qu'on a vu la délivrance. On a prié pour notre frère, pour notre sœur. Dieu a délivré. Oh, merci Seigneur. Donc voilà, tout ça nous rapproche de Dieu, que ce soit l'épreuve ou la souffrance des autres ou notre propre épreuve. Alors on comprend beaucoup mieux pourquoi Dieu permet des afflictions dans chacune de nos vies. Et j'aimerais terminer avec deux citations d'un un prédicateur puritain qui s'appelle Thomas Watson, un Anglais. Je vais répéter chacune deux fois. Les chrétiens se trompent lorsqu'ils supposent que lorsque Dieu afflige, il cesse d'aimer. Car l'affliction est l'instrument de Dieu par lequel il nous taille. Il préférera que les branches de sa vigne saignent plutôt qu'elles ne portent pas de fruits. Jean 15, 2. Les chrétiens se trompent lorsqu'ils supposent que lorsque Dieu afflige, il cesse d'aimer. Car l'affliction est l'instrument de Dieu par lequel il nous taille. Il préférera que les branches de sa vigne saignent plutôt qu'elles ne portent pas de fruits. Deuxième citation. La nature de l'affliction est modifiée lorsqu'elle est expérimentée par un homme de bien. Et c'est intéressant cette première partie, par un homme de bien, c'est clair, parce que quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, l'affliction n'est qu'affliction et incompréhension. Mais il dit, la nature de l'affliction est modifiée lorsqu'elle est expérimentée par un homme de bien. Par l'alchimie divine, elle est transformée en bénédiction et elle devient une preuve d'amour, une marque d'adoption et une préparation pour le ciel. Je répète, la nature de l'affliction est modifiée lorsqu'elle est expérimentée par un homme de bien. Par l'alchimie divine, elle est transformée en bénédiction. Elle devient une preuve d'amour, une marque d'adoption et une préparation pour le ciel. Merci Seigneur.